attentat à la bombe à La Haye contre les ambassades d'Espagne, de Grèce et du Portugal. Attentat à la bombe à Londres contre le club des officiers américains. Attentat à la bombe à Turin contre le consulat des États-Unis. Pas de morts, pas de blessés, des dégâts matériels. Tel est le bilan d'opérations terroristes d'un nouveau genre pour le week-end écoulé. Quand je dis d'un nouveau genre, je ne parle pas du procédé. Depuis bien longtemps, la bombe est l'arme des romantiques de la révolte, anarchistes français, socialistes révolutionnaires russes, oustachis croates, Sinn Feiners irlandais, combattants juifs de l'Irgun, militants de l'OAS. Comment ne pas croire, encore qu'aucune preuve n'ait été apportée, que ces attentats aient une origine commune? Certains enquêteurs ont émis une hypothèse. Cette origine commune serait un étudiant allemand en sociologie âgé de 27 ans, M. Rudi Dutschke. De Berlin, il a créé un mouvement d'extrême-gauche et par son éloquence entraîne les élèves des universités dans une tornade de violence destructrice. Il vient d'être père d'un garçon à qui il a donné le prénom de Che, en mémoire de Guevara, le compagnon de Fidel Castro, tué il y a quelques mois dans le maquis bolivien. Or, le 21 février, à Amsterdam, où il prononçait un discours, M. Dutschke aurait déclaré que des attentats seraient commis au mois de mars dans les villes européennes contre les ambassades des dictatures, y compris les dictatures marxistes. Le jeune agitateur a démenti ses propos d'une manière ambiguë. « Je n'ai pas prononcé la phrase en question », a-t-il dit, « mais je soutiens de telles actions. » On en est là. Laissons donc les policiers de La Haye, de Londres et de Turin poursuivre leur enquête et revenons aux troupes de M. Dutschke et à celles d'un certain nombre d'autres pays. Le 18 février dernier, M. Dutschke organisait une manifestation de 15 000 étudiants à Berlin-Ouest contre la politique américaine au Vietnam. Samedi dernier, c'était à Bruxelles que les étudiants belges réussissaient à rassembler 50 000 personnes dans le même but. À Rome, vendredi, de sanglantes bagarres ont éclaté entre les étudiants et la police qui occupe les facultés. Les élèves ont décidé hier d'organiser une journée nationale de protestation en accord avec les autres universités d'Italie. Que réclament-ils ? Une modernisation des méthodes d'enseignement, mais aussi des réformes qui dépassent leur statut. Par exemple, le vote par le Parlement d'une loi autorisant le divorce qui est toujours interdit en Italie. Un peu partout dans le monde, les étudiants s'agitent. En Espagne, ils se battent contre le régime du général Franco. En Égypte, contre le régime du colonel Nasser. Au Japon, ce sont des manifestations d'une extrême violence contre les Américains. Aux États-Unis, les universités sont les foyers ardents de l'opposition à la guerre menée par leur gouvernement au Vietnam. La France semble à l'abri de remous aussi graves, mais nos étudiants, quand on y regarde de plus près, rejoignent leurs condisciples étrangers dans leur révolte profonde. Nous aurions tort de croire qu'à Nanterre, dans les nouvelles facultés, les garçons ne cherchent à obtenir que le droit de pénétrer librement dans les chambres des filles. Cette revendication, et quelques autres, traduisent en réalité un sentiment d'hostilité à la société actuelle. Monsieur Alfred Grosser, l'un des hommes qui connaissent le mieux ce problème de la jeunesse des écoles, explique qu'à l'époque actuelle, l'adolescence se trouve pratiquement supprimée. On passe de l'enfance à la maturité presque sans transition. Mais paradoxalement, et c'est ce qui crée le déséquilibre, la prolongation de la scolarité recule le moment où les jeunes sont mis en situation de prendre une responsabilité. L'inadaptation des méthodes d'enseignement, même dans les pays développés, et qui aboutit à garder des émancipés en tutelle, explique en partie les conflits auxquels nous assistons. Mais il faut aller plus loin, plus profond. Toujours, les universités ont été des centres d'agitation, parce que les intellectuels sont la conscience d'une société, et parce que la jeunesse remet toujours tout en cause, parce qu'elle est toujours prête pour la révolution. Au Moyen-Âge, déjà, la Sorbonne bouillonnait. Les étudiants se retrouvaient pour le coup de feu sur les barricades en 1830 comme en 1848. Plus près de nous, ils fournissaient des militants enflammés au réseau de soutien du FLN comme aux commandos de l'OAS. Aujourd'hui, qu'ils sont de plus en plus nombreux et que les campus créent de vastes communautés propices à la naissance de courants d'agitation collective, aujourd'hui, contre quoi se dressent-ils à travers les prétextes de la guerre du Vietnam aux États-Unis, au Japon ou en Allemagne, de la loi sur le divorce en Italie, de la querelle des langues en Belgique, il ne s'en cache pas. Contre la société de consommation, contre le monde qui est le nôtre, le monde industriel, le monde qui aspire au bien-être matériel après des siècles d'inégalités. Le jeune est ainsi fait qu'il lui faut des raisons de vivre et du reste de mourir. Une idée pour laquelle militer et se battre, c'est le pèlerin de l'absolu. Quand il est privé de cette idée, il faut qu'il en trouve une autre. Voilà, je crois, le sens profond des convulsions qui se produisent sous nos yeux et que commencent à connaître les pays socialistes. Nous fabriquons, c'est le mot, une civilisation débarrassée de toute idéologie. Nous croyons mettre la technique en esclavage et nous risquons de devenir ses esclaves. À travers leurs excès, les étudiants de Berlin, de Bologne, de Berkeley, de Louvain et de Nanterre nous rappellent que l'homme ne vit pas seulement de pain. Soyons prêts à rendre les coups dans la seconde qui précède l'attaque. Ce mot d'un ministre israélien éclaire parfaitement les événements qui se sont déroulés hier au Moyen-Orient. Depuis la guerre éclair de juin dernier, aucun incident aussi grave ne s'était produit là-bas. On a même pu croire dans la matinée qu'un nouveau conflit allait embraser cette partie du monde. Jamais les représailles israéliennes n'avaient pris une telle ampleur. C'est une véritable armée qui, pénétrant en Jordanie sur un front de plus de 100 kilomètres, est allée détruire les bases d'où partent les commandos terroristes arabes. Le cessez-le-feu, intervenu il y a 9 mois, n'a pas éliminé les risques de guerre, au contraire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'infernal enchaînement de la violence n'est pas rompu. Les provocations attirent la riposte et qui, elle-même, suscite la vengeance. Aux Nations Unies, les discours se succèdent sans résultat, et bientôt tout recommence. Pourtant, la situation n'est pas identique à celle de juin 1967. Israël occupe des territoires plus étendus que les siens. L'État juif apprend que cette occupation, destinée à assurer sa sécurité, est également pour lui une source d'insécurité. Il n'échappe pas au sort de toutes les puissances qui font camper leurs armées sur des terres étrangères. À la résistance répond la répression. Autre conséquence, près d'un million de réfugiés palestiniens sont installés en Jordanie. En Jordanie devenue de ce fait un foyer de fanatisme guerrier sur lequel souffle la Syrie et qu'entretient l'Irak. Du même coup, le seul chef d'État arabe qui fut disposé à la conciliation, le roi Hussein, se trouve une fois de plus, et plus gravement que jamais, menacé. Il y a un mois, le souverain Hakémite avait eu le courage de condamner les opérations de commando. Les grondements de son armée, la démission de son premier ministre, lui ont fait immédiatement mesurer les étroites limites de ses pouvoirs. Les combats d'hier ne peuvent qu'affaiblir la situation déjà si précaire du roi Hussein et le rapprocher des autres chefs d'État arabes au moment même où, en Égypte, le colonel Nasser élimine de son gouvernement les partisans d'une politique de détente et d'un rapprochement avec l'Occident. On avait pu croire il y a un mois à un espoir de paix. Le représentant des Nations Unies au Moyen-Orient, le Suédois Gunnar Jaring, après avoir déployé de patients efforts, allait réussir à amorcer une négociation. Le gouvernement israélien avait fait un pas, le colonel Nasser aussi, le roi Hussein également. Ce n'était qu'une éclaircie, et l'orage n'a pas tardé à gronder de nouveau. La rue, qui joue un si grand rôle dans le monde arabe, a tout remis en cause. Pour avoir gouverné avec elle, le colonel Nasser sait qu'il ne peut plus s'imposer, et encore moins s'opposer à elle. On a pu noter un autre changement, moins spectaculaire, mais plus profond peut-être, et en tout cas plus grave, depuis 9 mois. À l'époque de la guerre de 5 jours, Israël s'appuyait sur la sympathie chaleureuse et active de millions d'hommes, non seulement en Occident, mais aussi dans le monde socialiste. La Roumanie soutenait l'État juif, et en Pologne, la politique pro-arabe du gouvernement provoquait des réactions extrêmement vives dans l'opinion. Quant à la France, elle devenait le théâtre d'un débat passionné. Jusque chez les gaullistes, on reprochait au chef de l'État une prudence qui dissimulait une faiblesse jugée suspecte envers les Arabes. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le climat a changé. Ne parlons pas de la France, où il suffit de lire les journaux pour constater que la cause israélienne ne suscite plus tout à fait le même élan. Allons droit aux États-Unis, la puissance protectrice d'Israël. Le gouvernement américain, même s'il le fait dans des termes infiniment plus mesurés que les soviétiques, vient de condamner les opérations de représailles déclenchées hier. Les Britanniques, à la tribune de l'ONU, tiennent le même langage. Et il faut rappeler l'engagement pris récemment par les États-Unis de livrer des armes à la Jordanie, alors que la France maintient l'embargo sur les fournitures militaires à destination d'Israël. Les Israéliens trouveront-ils aux États-Unis la compensation ? Sans nul doute. Il n'en est pas moins vrai que les Américains se montrent réservés, et ce fait me paraît d'autant plus significatif que la campagne électorale a commencé là-bas et qu'aucun candidat ne peut négliger les voix des Juifs. Mais à l'inverse, le conflit vietnamien accapare si totalement les moyens, les énergies et les ressources des États-Unis que ce pays ne peut se permettre d'intervenir de quelque manière que ce soit, ni pour soutenir une guerre, ni pour imposer une paix, en aucun autre point du monde. Je me demande, voyez-vous, si les succès remportés par Israël en juin dernier et exploités depuis n'ont pas affaibli la position de l'État juif en même temps qu'il la renforçait. Un peuple qui gagne une guerre, si juste soit-elle, doit à la longue se faire pardonner par une opinion d'abord admirative, puis insensiblement attirée par le vaincu. À plus forte raison lorsque le triomphe est suivi d'une occupation prolongée de territoire et de nouvelles opérations militaires. Quelles que soient les menaces qui continuent de peser sur Israël, et si grande que soit l'insécurité entretenue à ses frontières par le terrorisme arabe, ce pays doit subir les conséquences d'une précaire victoire que la paix ne couronne pas. Le pasteur Martin Luther King est mort il y a 5 heures sur un lit d'hôpital à Memphis, dans le Tennessee. Celui que 20 millions de Noirs américains considéraient comme un saint a été assassiné. Un jeune blanc lui a tiré une balle dans la tête. Apprenant la nouvelle, le vice-président Hubert Humphrey a déclaré que ce crime jetait la honte sur les États-Unis. Quant au président Johnson, qui s'apprêtait à partir pour Honolulu, où il devait présider une conférence préparatoire aux prochaines négociations avec les Nord-Vietnamiens, il a retardé d'un jour son voyage. Chacun aux États-Unis s'attend maintenant à un déferlement de violence. Déjà, dans les quartiers noirs de plusieurs villes, dont la liste s'allonge de minute en minute, les grondements de la révolte se font entendre. La vie publique de cet humble pasteur de Géorgie avait commencé le 1er décembre 1955, le jour où une femme noire qui s'appelait Rosa Parks fut arrêtée pour avoir refusé dans un autobus de la ville de Montgomery, Alabama, de céder sa place à un blanc. Martin Luther King organisa le boycott des transports en commun de la ville. L'élan était donné. Conquête des droits civils, conquête des droits civiques. Il restait à conquérir tout simplement les droits de l'homme. La mort de ce prêtre de 39 ans inflige-t-elle un démenti à sa vie ? Il ne ressemblait pas à son père, pasteur lui aussi, que le journaliste Louis Lomax, dans son livre « La révolte noire », appelait un prédicateur dur. Cela veut dire, ajoutait Lomax, que le dimanche matin, son sermon donne l'impression que le ciel et l'enfer vont entrer en collision et que lui seul, animé par le don divin de l'éloquence, est capable de les maintenir séparés. Martin, lui, était évangélique. Il refusait de haïr ses ennemis. Il rêvait, ce pacifique, de voir un jour s'asseoir à la table de la fraternité, il s'exprimait ainsi, comme au prêche, les fils des anciens esclaves et ceux des anciens esclavagistes. C'était un rêve, en effet. Fatigués de recevoir les coups, les Noirs ont décidé de les rendre. L'oncle Tom est sorti de sa case, les armes à la main. Le pasteur conservait encore une grande influence sur ses compatriotes noirs, mais il voyait d'année en année s'éloigner de lui des hommes, Malcolm X assassiné avant lui, Stokely Carmichael, d'autres encore, décidés à répondre au sang par le sang. Ceux-là ont cessé de chanter les vieux spirituals, d'appeler le doux chariot qui les mènera au ciel. Ils cognent, ils incendient, ils tuent. Tout comme les Blancs qui viennent d'inscrire à leur tableau de chasse Martin Luther King, prix Nobel de la paix. Les Noirs américains représentent un peu plus de 10% de la population totale du pays. Mais ils ne sont plus parqués dans le Sud, ils ont gagné les villes. 7/10 d'entre eux se trouvent aujourd'hui rassemblés dans des agglomérations urbaines. À Washington, capitale fédérale, ils sont plus nombreux que les Blancs. À New York, le sombre quartier de Harlem est un arsenal gorgé d'explosifs au flanc de Manhattan. C'est que les dirigeants américains, et je ne parle pas seulement des leaders politiques, mais de tous ceux qui forment la superstructure économique, les pouvoirs établis, ont accompagné la ségrégation raciale d'une ségrégation sociale. Les Noirs constituent un sous-prolétariat. Ils s'entassent dans des ghettos où ils doivent payer des loyers prohibitifs. À Chicago, il y a 2 fois plus de Noirs que de Blancs à l'hectare. Et si l'on consulte la statistique des logements vétustes, on constate qu'1/6 est occupé par des Noirs et seulement 1/29 par des Blancs. En moyenne, le revenu d'une famille noire ne dépasse pas les 3/5 de celui d'une famille blanche. Et si la proportion de chômeurs aux États-Unis est de 11% par rapport à l'ensemble de la population, elle monte à 20% lorsqu'il s'agit seulement des Noirs. Je ne veux pas dire que le racisme exacerbé soit la règle aux États-Unis. Les choses sont plus compliquées que cela, et chacun peut constater les grands progrès accomplis depuis 20 ans. Beaucoup d'Américains, à commencer par le président, souhaite sincèrement en finir avec une ségrégation qui risque de livrer le pays aux excès. Le problème noir, comme les autres dans ce pays où est profondément enracinée la tradition démocratique du libre débat, est discuté fréquemment à la télévision. On a pu ainsi voir et entendre, aux États-Unis où l'on compte 92 millions de récepteurs pour 60 millions de foyers, de jeunes noirs traités de brutes et d'assassins, des policiers qui serraient les poings de rage et que le meneur de jeu rappelait à l'ordre s'il se laissait entraîner à répondre vertement. Cela dit, le gouvernement et le Congrès peuvent-ils le régler, ce problème? Le président Kennedy, comme son successeur, voulait compléter l'effort d'intégration par des mesures à caractère économique et social. Mais les États-Unis, en dépit de leur colossale richesse, n'ont pas les moyens de développer une telle politique tout en entretenant 500 000 soldats au Vietnam, 200 000 en Allemagne, 50 000 en Corée, et tout en fournissant une aide militaire ou économique à plus de 100 pays. Le président Johnson, s'il avait ignoré ce qui n'est pas le cas, aurait appris tout cela en lisant un document qui lui a été remis récemment par une commission du Congrès chargée d'enquêter sur la situation des Noirs. Je ne serais pas étonné que la décision prise par M. Johnson d'ouvrir des pourparlers avec le Nord-Vietnam ait été dans une assez large mesure provoquée par une analyse sérieuse de cette situation. Le président sait que son pays, si prospère soit-il, risque de voir sa monnaie compromise, son économie atteinte et un sanglant conflit jeter l'une contre l'autre les deux communautés des États-Unis. Amère ironie du destin, alors que M. Johnson s'apprêtait à partir pour Honolulu, le pasteur Martin Luther King tombait sous la balle d'un assassin. Au moment même où la guerre recule, la guerre civile menace. Depuis le début d'avril, les Américains et les Nord-Vietnamiens paraissent engagés dans une tragique et absurde partie de cache-cache. De part et d'autre, on s'accuse de se livrer à des manœuvres et de perdre de précieuses journées. Ces journées, elles sont surtout précieuses pour ceux qui les paient de leur sang. C'est à cela que je pensais en revoyant à la télévision française le reportage de Pierre Schendorfer, filmé il y a plus d'un an. Un reportage intitulé « La section Anderson » qui vient d'obtenir aux États-Unis l'Oscar du meilleur documentaire. Il se trouve que j'avais assisté quelques jours plus tôt à la projection d'un autre film sur le même sujet et d'une intensité dramatique peut-être encore plus grande, un film du cinéaste américain Eugene Jones, dont le titre est « Un aspect de la guerre », un film qui ne sortira pas dans nos salles de sitôt. Dans ma mémoire, les images de Schendorfer et celles de Jones se confondent. Ce sont les mêmes. Elles m'obsèdent. Je vous les livre. Ces soldats américains sont venus de l'Alabama, de la Californie ou du Massachusetts pour se faufiler dans un grand froissement à travers les hautes herbes coupantes, pour s'arrêter le soir tombant au bord du marais. Pas un bruit, si ce n'est le coassement des grenouilles et de temps en temps le grésillement du walkie-talkie. L'immobilité est absolue. Seuls les yeux se déplacent dans les visages figés. La guerre du Vietnam, ce sont les yeux qui cherchent, à travers l'enchevêtrement de la forêt, d'autres yeux qui les épient. Tout à coup, un sifflement, une trace brillante, et c'est le déchaînement. Puis les hélicoptères, gros insectes vrombissants, se posent et absorbent leur ration de blessés. Voici un prêtre qui dit sa messe devant des visages qui se ressemblent tous, des visages lisses de 20 ans. Voici à deux pas de là des joueurs de dés dans une boîte en carton où s'entassent des billets de banque. Voici la baignade folle dans une mare, la partie de ballon dans la boue asiatique, les blues qu'un noir chante sous la pluie, un rodéo grotesque avec de jeunes buffles qui font monter la poussière près de la rizière qui frémit comme une chevelure. Le village au toit d'herbe s'incorpore à la nature. Le village pacifique, perdu dans la jungle et la guerre, accueillant aux hommes casqués qui portent des colliers de mort. Tous se rassemblent, les vieilles ridées, les enfants rieurs. Il n'y a que candeur dans tous ces yeux en amande. Mais il y a la femme au visage plat, suspecte d'être milicienne du Viet Cong, et qu'on emmène. Mais sous le sol, on découvre une cache d'armes. Un fil presque invisible conduit à la grenade chargée de foudre, la main prudente, caressante du soldat. La même grosse patte prudente, caressante, recueille le bébé que libère soudain le ventre distendu d'une femme couchée sur sa litière, un visage déformé par l'effort et la douleur. Il y a aussi cette petite fille blessée d'un éclat de bombe que l'hélicoptère emporte vers la guérison. Et encore ce médecin noir, en uniforme, qui distribue des cachets, enroule des pansements, fait des piqûres. Le poste à transistor moue la musique de Radio Saigon. Une voix féminine chante une rengaine. Ses bottes sont faites pour marcher. Là-bas, sur la mauvaise route, un camion militaire cahote. Soudain, l'explosion projette les plaques de tôle et les membres. Des hommes brûlés, jambes arrachées, geignent sur les talus, raclent le sol de leurs ongles. Le walkie-talkie crachote, appelant les hélicoptères du salut, qui fauchent un champ entier sous le vent de leurs pales. Le village, lui aussi, va mourir. Un énorme engin, sorte de péniche blindée montée sur roue, ou bien est-ce sur chenille, s'avance, ouvre silencieusement sa gueule de grand saurien, engloutit les habitants de la bourgade. Ils y tiennent tous avec leurs pauvres ustensiles. La mâchoire se referme, le monstre s'éloigne. Depuis les canons pointés sur les misérables maisons, partent des traits de feu, nets, cruels. Les lance-flammes accomplissent leur parfait travail de mort. Voilà, en raccourci rose et rouge, quelques semaines de Vietnam. L'art de tuer et de soigner, de nourrir et de détruire, l'art de la guerre, aussi vieux que l'espèce humaine, où les sentiments ne s'insinuent que par les interstices du danger. Les États-Unis, le Nord-Vietnam, seraient-ils gouvernés par des sadiques, insensibles à la souffrance et à la mort? Ce serait trop simple, trop affreusement simple. En réalité, ni le président Johnson, ni le président Ho Chi Minh ne sont libres d'eux-mêmes. Chacun a ses alliés qui le poussent ou qui le retiennent. À Honolulu, aujourd'hui, l'astucieux Texan s'emploie à convaincre le chef de l'État sud-coréen que la négociation ne signifie pas la capitulation, c'est-à-dire l'écroulement des régimes associés aux Américains, celui de la Corée du Sud, celui du Sud-Vietnam, celui de la Thaïlande. De sa capitale de Hanoï, le vieil homme à barbiche ne peut lui non plus négliger son allié Viet Cong, ni celui qui se bat dans les forêts du Laos, ni surtout celui qui pèse de tout son poids, le Chinois à qui la guerre profite. À tout cela, il faut ajouter la méfiance réciproque, justifiée par les hostilités elles-mêmes. Chacun hésite à faire le pas décisif dans la voie d'un règlement, acte qui brise la volonté de lutte des combattants, sans savoir si l'adversaire est sincèrement décidé à aboutir. Le premier coup de feu tiré, on n'arrête pas facilement une guerre, mais on arrête difficilement la paix quand les pourparlers ont commencé.